Un des meilleurs souvenirs de mon enfance, c'est le temps que j'ai passé en Alsace chez mes grands-parents. Il y avait Noël, bien sûr, qui était comme dans les contes de fées, avec des montagnes de cadeaux et des vraies bougies qui mettaient le feu à l'arbre, mais que grand-mère éteignait tranquillement avec une casserole d'eau. Mais j'aimais aussi beaucoup l'été, la pêche, la baignade et la cueillette des fruits. Mon grand-père possédait beaucoup d'arbres fruitiers de toutes sortes, cerisiers, poiriers, pommiers, pruniers, pêchers et vignes. Il est vrai que ramasser des tonneaux de quetsch sous un soleil de plomb, c'était une corvée. Mais c'est aussi comme ça que depuis ma plus tendre enfance, j'ai appris à aimer les fruits. Je trouve qu'un panier rempli de fruits, prêts à être dégustés, est un chef-d'œuvre de la nature. Il est agréable à la vue, il parfume l'atmosphère et on peut presque goûter les fruits rien qu'en les regardant. Israël est connu pour tous les fruits qu'il exporte, mais les prophètes utilisent aussi l'image des fruits mûrs pour toute autre chose que le plaisir des sens. Je commence à lire le chapitre 8 du livre d'Amos. Et voici ce que me fit voir le Seigneur, l'Éternel. Il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs. Il me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Et je lui répondis, « Je vois une corbeille remplie de fruits mûrs. » Et l'Éternel me dit, « La fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais je ne lui pardonnerai plus. » Versets 1 et 2. C'est ici la quatrième vision d'Amos. En hébreu, les mots « fin » et « fruit » font assonance. C'est-à-dire qu'ils se prononcent presque exactement de la même manière. Le mot pour « fruits mûrs » désigne spécifiquement les fruits de la dernière cueillette de l'année. Il faut les manger rapidement car ils se conservent mal. Ces fruits bien mûrs dans un panier signifient évidemment qu'ils ont été ramassés et que c'est le moment de la récolte. Mais cette image sympathique est en réalité très menaçante parce qu'elle annonce qu'Israël est mûr pour le jugement et qu'il est proche. Je continue. « En ce jour-là, les chants dans le palais deviendront des ululements. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, car nombreux seront les cadavres qu'il aura jetés en tout lieu. » Silence. Verset 3. Ce jour-là est une référence à un jour de l'Éternel pour Israël Nord, c'est-à-dire un temps de châtiment. Ce n'est pas la première fois que le prophète Amos parle de mort et de cadavres ou que le deuil remplacera les réjouissances. En fait, il n'arrête pas de se répéter. C'est aussi ce que font tous les prophètes. Ils repassaient les mêmes choses et multipliaient les paroles. Comme c'est fastidieux, souvent ils travaillaient leurs textes et maintenant qu'il est incorporé dans les Écritures sacrées, il se présente en hébreu sous une forme poétique très recherchée. Du moins, il en est ainsi pour celui d'Amos. Que ce soit en Juda ou sur le territoire des 10 tribus, les prophètes demandaient toujours au peuple et à ses dirigeants de se repentir et de changer de style de vie, tout en les menaçant des châtiments prévus dans la loi de Moïse. La guerre, les sauterelles, la famine, la peste et l'exil sont les plus courants. Pour les Israélites qui écoutaient, le fait d'entendre toujours les mêmes menaces devait les fatiguer. Mais d'un autre côté, ce rabâchage jouait le rôle d'une soupape de sûreté qui donnait aux Israélites du temps pour revenir à l'Éternel pendant que sa patience se prolongeait. Malheureusement, ils ont trop tiré sur la corde et elle s'est cassée. Le jour du jugement est arrivé. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, quand Dieu se fâche, malheur à ceux qui ne se sont pas repentis de leurs mauvaises actions. Amos dit qu'il y aura des cadavres partout, ce qui est facile à comprendre en temps de guerre. Dans Samarie assiégée, la place manquera pour les enterrer et comme il sera impossible de sortir de la ville, les corps en état de décomposition déclencheront des maladies qui contribueront à la destruction des habitants et à la ruine finale de la capitale qui tombera aux mains des Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Dans leur douleur, les Israélites garderont le silence par crainte d'attiser encore davantage la colère de Dieu. Précédemment, Amos a déjà parlé de ce silence pesant quand il a dit « Quand le proche parent d'un défunt emportera de la maison le mort pour le brûler, il demandera à celui qui se trouve au fond du logis. Quelqu'un d'autre est-il encore avec toi ? Celui-ci répondra « Il n'y a plus personne » et l'on dira « Silence » car il n'y a pas lieu d'invoquer l'Éternel. Je continue le texte. Écoutez donc ceci, vous qui voulez engloutir l'indigent et en finir avec les pauvres du pays. Verset 4. Une nouvelle fois, Dieu s'élève contre l'exploitation sans scrupule des pauvres. Ceux qui dans le pays détiennent le pouvoir sont pires que des loups ou des requins. Profitant de leur position, ils dévorent les biens de ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, ajoutant à leur patrimoine terrain à terrain, maison à maison. S'ils arrivent à tout prendre aux pauvres, d'une part, ces derniers deviendront indigents, alors que la loi garantissait à toutes les familles l'héritage de leurs ancêtres à perpétuité. Et d'autre part, ils seront obligés de se vendre comme esclaves. Je continue. Écoutez donc ceci, vous. Oui, vous qui dites « Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé ? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains ? Nous diminuerons la mesure de l'épha, nous en augmenterons le prix en truquant les balances. » Verset 5. L'épha était une unité de capacité qui servait à mesurer les céréales. La nouvelle lune, le premier jour du mois, était férié. Tout travail ou échange commercial était interdit, comme pour le jour du sabbat. Mais les commerçants ne respectent cette loi que par obligation et en grinçant des dents à cause du manque à gagner. De plus, ils étaient malhonnêtes, violant allègrement la loi de Moïse dans laquelle il est bien spécifié « Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. » Vous vous servirez de balance juste, de poids juste, de mesure de capacité juste. À cette époque et jusqu'au retour de la captivité babylonienne, les Israélites n'utilisaient pas de monnaie. On payait les légumes qu'on achetait au marché avec un métal précieux, généralement de l'argent, en fonction de son poids. Le métal qui servait de monnaie d'échange était donc pesé comme une marchandise. Les commerçants s'enrichissaient en arnaquant les chalands, et surtout les pauvres miséreux, de trois manières différentes. Premièrement, ils faisaient payer des prix exorbitants, et comme ils s'étaient entendus entre eux, il n'y avait pas moyen de faire jouer la concurrence. Ensuite, ils se servaient de deux balances fausses, l'une pour peser les victuailles, qui donnait un poids supérieur à la réalité, et l'autre pour peser le poids du métal qui servait de paiement et qui donnait un poids inférieur à la vérité. Ça me fait penser à la blague où avant de jeter une pièce de monnaie en l'air, on dit « Pile, tu perds, face, je gagne ». Après le retour de l'exil, l'argent a été standardisé justement pour éviter l'escroquerie. Les poids principaux étaient le talent, la mine et le sicle. Le problème est que l'étalon mesure était une pierre, un vulgaire caillou, et n'était pas le même partout. Chez les Hébreux, le sicle pesait environ 16,4 grammes, la mine valait 50 sicles, soit 820 grammes, et le talent 3000 sicles. Mais on n'en est pas sûr. À Lachish, en Juda, on a trouvé des mines qui pesaient entre 423 et 570 grammes au lieu de 820 grammes. Des pimes, c'est-à-dire des deux tiers de sicle qui pesaient 7,8 grammes et 8,13 grammes au lieu de 10,9 grammes. Des bécas, c'est-à-dire des demi-cycles qui pesaient 6,09 grammes et 6,15 grammes au lieu de 8,2 grammes. Pour les mesures de capacité, il y avait le bat pour les liquides et l'épha pour les solides, comme les céréales, par exemple. Tous les deux étaient de 35 litres. Pour les longueurs, La coudée ordinaire faisait 44 cm et la grande coudée 52 cm. Je vous ferai grâce du reste et je continue le texte d'Amos. Écoutez donc ceci, vous qui dites « Nous achèterons le pauvre pour de l'argent et l'indigent pour une paire de sandales. Nous vendrons même jusqu'aux déchets du blé. » Verset 6. Comme je l'ai déjà fait remarquer, Amos se répète beaucoup. Il a déjà prophétisé, l'Éternel dit ceci, « À cause de 3 crimes d'Israël et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, car pour de l'argent ils vendent le juste et l'indigent pour une paire de sandales. » J'ai dit que les commerçants malhonnêtes truandaient leur clientèle de 3 manières différentes, mais c'est encore pire puisqu'il y en a une quatrième qui est la très mauvaise qualité de la marchandise. Les déchets du blé sont la balle et autres impuretés qui étaient emportées par le vent quand on battait les céréales pour en tirer les grains qui étaient ensuite écrasés pour faire de la farine. Eh bien, ces requins aux dents longues récupéraient les déchets, les mélangeaient au blé et vendaient le tout garanti premier choix dans des sacs bien fermés. Ils n'avaient pas le moindre soupçon de pitié pour les pauvres et la souffrance humaine les laissait de marbre. Pour eux, il n'y avait qu'une chose qui comptait, le profit, faire un maximum de fric par n'importe quel moyen. Une telle dureté de cœur est difficile à concevoir, mais si on en croit Amos, c'est exactement de cette manière que se comportaient et s'enrichissaient ces escrocs. Après quelques années de pratiques pareilles, la plupart des pauvres étaient éliminés car après avoir été obligés de mettre en gage tous leurs biens, ils étaient finalement forcés de se vendre comme esclaves aux grands propriétaires. En effet, en Israël, quand quelqu'un ne pouvait rembourser une dette, la loi autorisait la saisie du débiteur insolvable et la privation de sa liberté. Il devenait alors esclave de son créditeur, mais pour un temps seulement et sous certaines conditions. Cependant, ici, ces crapules se rendent gravement coupables en abusant de la loi. Ils s'en servent pour dérober les biens d'autrui et l'appliquent sans la moindre miséricorde pour une dette de misère. C'est ce que veut dire « Nous achèterons le pauvre pour de l'argent et l'indigent pour une paire de sandales », une expression que le prophète Amos a déjà utilisée. On pourrait faire certains rapprochements entre ce qui se passait au 8e siècle en Israël Nord et les arnaques plus ou moins légales du 21e siècle en ce bas monde, voire chez nous, mais je m'abstiendrai. Je continue le texte d'Amos. L'Éternel a juré contre l'orgueil de Jacob. Jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. Verset 7. Amos confirme une parole précédente quand il a dit « Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. C'est là ce que déclare l'Éternel, Dieu des armées célestes. J'ai en horreur ce qui fait l'orgueil de Jacob et je hais ses palais, je livrerai la ville et ce qu'elle contient. » Dans les Écritures, l'Éternel est appelé la gloire d'Israël parce que c'est en lui seul que les Israélites auraient dû placer leur confiance, leur fierté et trouver leur bonheur. Mais ils ont poursuivi des objectifs vains et vils comme les idoles et les richesses. L'orgueil de Jacob représente d'une part l'arrogance des classes supérieures qui traitent les autres comme des objets qu'on exploite et d'autre part le fait qu'ils ont fait des richesses leur idole. Dans sa justice, Dieu ne va pas oublier la fourberie, la dureté de cœur et l'avidité sans scrupules des riches propriétaires, des notables de Samarie et des mignons du roi. Au jour du jugement, il se souviendra d'eux afin que chacun reçoive la juste rétribution que méritent leurs mauvaises actions. Quand on observe toutes les injustices et les crimes qui se commettent chaque jour sur notre planète, on a vraiment l'impression que Dieu n'est pas au courant ou que ça ne le concerne pas. Erreur. Il voit, il entend et il sait, mais il attend que les coupables se repentent. Je lis un passage. « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ?» demande le Seigneur, l'Éternel. « Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ? » Dis-leur, « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. » Fin de citation. Seulement, au bout d'un temps, la patience de Dieu est épuisée. Alors sonne l'heure du jugement quand il se souvient et règle ses comptes. Si ce n'est pas ici-bas, c'est dans l'au-delà, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela dit, les Écritures enseignent aussi que Dieu peut oublier à tout jamais, un peu comme s'il devenait amnésique. Je lis deux passages. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ces paroles concernent d'abord les Israélites à la fin des temps. Mais ce qui est important pour vous et pour moi est que Dieu peut choisir d'oublier les péchés de quelqu'un et agir comme s'ils n'avaient jamais existé, jamais été commis. Quand Jésus a dit au paralytique et à la femme pécheresse « Tes péchés sont pardonnés », pouf, d'un seul coup, il n'existait plus nulle part dans l'univers et Dieu ignorait tout des mauvaises actions commises par ces personnes. Ce privilège inestimable est offert gratuitement à tout un chacun, mais l'immense majorité des gens s'en moque ou le méprise. La conséquence est funeste car Dieu garde en mémoire tous leurs péchés et ces personnes devront rendre compte de chacun d'eux. Je continue le texte. « Jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. À cause de cela, le pays tremblera et tous ses habitants seront en deuil. Le pays se soulèvera dans sa totalité comme le Nil en crue. Il sera agité et puis s'affaissera comme le fleuve de l'Égypte. » Verset 8. C'est comme si la Terre Sainte, scandalisée par les atrocités qui se commettent à sa surface, a un mouvement de recul et vomit ses habitants. Cette description convient bien à un tremblement de terre, surtout que le prophète a commencé le livre contenant ses oracles en disant « Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui furent révélés au sujet d'Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. » Or, et comme je l'ai déjà dit, on croit savoir qu'une violente secousse sismique a eu lieu en Palestine en l'an 760 avant Jésus-Christ. Mais ce tremblement de terre qui a, semble-t-il, fait de nombreuses victimes n'est que les prémices du jugement final et définitif qui surviendra en l'an 724 quand les armées assyriennes envahiront le territoire des 10 tribus, assiégeront Samarie, sa capitale, et mettront fin 3 ans plus tard à l'existence politique d'Israël Nord. Quand le Nil est en crue, c'est généralement une bénédiction parce qu'en même temps qu'il remplit toute la vallée, il y dépose un précieux limon qui fertilise le sol. Mais ici, il s'agit d'une inondation dévastatrice. Une image qui décrit les armées assyriennes qui déferlent sur le pays d'Israël Nord et le couvrent dans sa totalité, semant partout ruines et destruction. Après 3 ans de siège, ils prendront Samarie, la capitale, la détruiront et massacreront ou déporteront ses habitants. Comme je l'ai déjà dit, une partie de la population la plus pauvre était autorisé à rester et un certain nombre d'Israélites trouva refuge en Juda chez leurs frères du sud. Pour cette dernière raison, aucune des 12 tribus originelles d'Israël n'a disparu dans sa totalité, et aujourd'hui, les Juifs qui vivent de par le monde sont les descendants des 12 fils de Jacob. La comparaison que fait Amos avec le Nil d'Égypte a pour but de rappeler aux Israélites du Nord les 10 plaies d'Égypte que l'Éternel avait suscitées pour arracher son peuple des griffes du Pharaon. Cette histoire était fort connue car elle était fondatrice de la nation et se transmettait de génération en génération. La différence ici est qu'au lieu de défendre son peuple, Dieu le considère comme son ennemi et l'attaque pour le détruire. La mention « tous ses habitants seront en deuil » n'est pas anodine car elle rappelle la dernière des 10 plaies d'Égypte où dans chaque maisonnée il y avait au moins un mort puisque tous les premiers-nés furent tués par l'ange exterminateur. Aujourd'hui, ceux qui voyagent en Palestine vont souvent visiter les ruines de Samarie, l'ancienne capitale du royaume des 10 tribus, ou celles des sanctuaires de Gilgal et les 2 ou 3 endroits où se trouvait peut-être le sanctuaire de Bethel. À regarder ces lieux sinistres, il est difficile de se représenter des villes florissantes aux alentours, couvertes d'une végétation riche et abondante, car ce sont maintenant des étendues désertiques et dénudées qui servent de repère aux chacals. Le pays d'Israël porte toujours les marques du jugement de Dieu et elles ne seront effacées que lorsque Jésus reviendra pour établir son royaume.